Vous écoutez, on lit pour vous.
Parkinson, un nouveau traitement approuvé par la FDA réduit nettement les périodes off. Un texte de Fleur Brosseau paru le 21 mars 2025 dans Science et Vie. Les traitements de la maladie de Parkinson visent à compenser la déficience en dopamine qui caractérise la maladie. Cependant, sur le long terme, leur efficacité s'amoindrit et les symptômes peuvent refaire surface périodiquement. Un nouveau médicament récemment approuvé par la FDA permet d'éliminer ces périodes off. La maladie de Parkinson se caractérise par la disparition progressive de certains neurones, les neurones dopaminergiques, dans le cerveau. Les fonctions motrices sont directement affectées, ce qui est très handicapant. Les symptômes typiques comprennent une lenteur des mouvements, akinésie, des tremblements, une rigidité, hypertonie, des troubles de la marche et des mouvements involontaires, dyskinésie. La maladie provoque également des symptômes non moteurs, troubles cognitifs et sensoriels, troubles du sommeil, douleurs, dépression, anxiété et démence. À ce jour, cette maladie neurodégénérative est incurable. Cependant, des médicaments permettent de réduire les symptômes. Le traitement par levodopa-carbidopa, destiné à augmenter la quantité de dopamine dans le cerveau, est le plus courant. Ces médicaments s'avèrent très efficaces au stade précoce de la maladie. Mais à mesure que la maladie s'aggrave, ils peinent à assurer un contrôle moteur continu. S'ensuit une alternance de périodes « on » lorsqu'ils sont efficaces et de périodes « off » lors desquelles les symptômes réapparaissent soudainement. Des traitements plus ou moins efficaces. On estime qu'environ 10 % des patients éprouvent de telles fluctuations d'effets thérapeutiques. Non seulement elles restent très handicapantes, mais elles alimentent l'anxiété des malades. Mais pourquoi les médicaments standards, pourtant très efficaces, perdent-ils leur effet au fil du temps? À mesure que la maladie progresse, la dysmotilité gastro-intestinale s'accentue. Or, ces troubles de la motricité du système digestif nuisent à l'absorption du médicament pris par voie orale. En conséquence, ces effets deviennent variables selon la quantité réellement absorbée, explique le Dr. Stuart Isaacson, directeur du Parkinson's Disease and Movement Disorders Center de Boca Raton, en Floride. Il était essentiel de trouver le moyen de réduire ces périodes d'inefficacité à zéro pour améliorer le quotidien des malades. Le nouveau traitement ONAP-GO, chlorhydrate d'apomorphine, répond parfaitement à ce besoin. Développé par Supernus Pharmaceuticals Inc., une société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement des maladies du système nerveux central, il consiste en une perfusion continue d'apomorphine. Cette molécule est un agoniste compétitif de la dopamine, ce qui signifie qu'elle ressemble et agit comme cette dernière. Elle présente deux avantages majeurs par rapport aux médicaments existants. Tout d'abord, elle stimule directement les récepteurs postsynaptiques de la dopamine sans qu'aucune conversion métabolique ne soit nécessaire. La levodopa doit, quant à elle, être décarboxylée sous l'action d'une enzyme pour produire de la dopamine. Ensuite, l'administration sous-cutanée du produit permet de contourner le tractus gastro-intestinal. Il pénètre ainsi directement dans le cerveau, ce qui permet une amélioration plus prévisible des symptômes. Jusqu'à présent, celle-ci dépendait de la quantité de levodopa absorbée et transformée en dopamine. Près de 2h30 d'épisodes off en moins dans la journée. La décision de la FDA fait suite aux résultats d'une étude de phase 3 visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité du médicament. Cet essai en double aveugle a impliqué 107 patients issus de plus d'une vingtaine d'hôpitaux européens. Leur maladie de Parkinson avait été diagnostiquée plus de 3 ans auparavant. Ils présentaient des fluctuations motrices insuffisamment contrôlées par le traitement standard, 3 heures de temps off en moyenne chaque jour. La moitié d'entre eux ont reçu une perfusion sous-cutanée d'apomorphine pendant 12 semaines, 3 à 8 mg par heure, 16 heures par jour. L'autre moitié a reçu un placebo. Les chercheurs ont observé que la perfusion d'apomorphine réduisait significativement les périodes off par rapport au placebo. Ils rapportent une réduction moyenne de 2,47 heures par jour pour les patients ayant bénéficié du traitement versus 0,58 heures par jour pour le groupe placebo. Cette différence provient du fait que la perfusion permet de conserver une concentration sanguine d'apomorphine stable tout au long de la journée. Les améliorations étaient notables dès la première semaine. ONAP-GO a été bien toléré par les patients. Les effets indésirables les plus fréquents comprenaient l'apparition d'un nodule et d'une rougeur au point de perfusion, des nausées, une somnolence, une dyskinésie, des maux de tête et des insomnies. Le traitement devrait être disponible outre-Atlantique au cours du deuxième trimestre. ONAP-GO représente une nouvelle approche pour les adultes atteints de la maladie de Parkinson qui présente des fluctuations motrices, a déclaré Jack Cather, PDG de Supernus Pharmaceuticals. Une approche efficace déjà proposée en Europe. ONAP-GO est le premier traitement par perfusion d'apomorphine approuvé aux États-Unis pour la maladie de Parkinson. C'est toutefois le deuxième traitement par perfusion sous-cutanée. En effet, la FDA a approuvé récemment l'usage du Vialev TM, une perfusion continue de levodopa et de carbidopa. À savoir que la perfusion sous-cutanée d'apomorphine est déjà utilisée en France et en Europe pour réduire les fluctuations d'efficacité liées aux prises de levodopa ainsi que les dyskinésies sévères. Elle est commercialisée sous le nom d'apokinon. Ce traitement donne généralement de très bons résultats, les périodes off disparaissant presque totalement. Il peut ainsi remplacer tout ou partie du traitement par voie orale, selon les cas. Une étude en vie réelle, impliquant 110 patients suivis à l'hôpital de la Salpêtrière de Paris, a examiné les effets à long terme de ce traitement. Après 2 ans, les 65 % de patients qui étaient toujours sous perfusion ont rapporté une meilleure qualité de vie et une réduction soutenue des fluctuations motrices. La perfusion sous-cutanée continue d'apomorphine a déjà fait ses preuves depuis 30 ans en Europe, où elle a permis à des milliers de patients d'obtenir un contrôle plus cohérent de leurs fluctuations motrices, confirme le Dr Rajesh Pawa, professeur de neurologie et directeur du Centre d'excellence de la Fondation Parkinson au Centre médical de l'Université du Kansas. Les malades aux États-Unis pourront désormais, eux aussi, bénéficier de cette approche. Ces options de traitement continu peuvent véritablement améliorer le quotidien des malades. Cependant, ils ne s'attaquent pas à la cause de la maladie de Parkinson, à savoir la perte de neurones dopaminergiques. Une forme pathologique d'une protéine cérébrale, l'alpha-synucléine, serait à l'origine de cette neurodégénérescence. Mais les mécanismes d'apparition de la maladie restent à éclaircir. En attendant, les scientifiques s'emploient à rechercher les meilleurs moyens d'atténuer les symptômes afin d'améliorer la qualité de vie des patients. Un effort indispensable, sachant que l'on attend 2 fois plus de cas d'ici 2050, et pas seulement parmi les personnes âgées. Actuellement, 17 % des malades ont moins de 50 ans. C'était Parkinson, un nouveau traitement approuvé par la FDA, réduit nettement les périodes off. Un texte de Fleur Brosseau, paru le 21 mars 2025 dans Science et Vie.
Je pense qu'il nous faut un Doge, D-O-G-E, parfois. Un texte d'Olivier Niquet, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse. Non, Olivier Niquet n'est pas un admirateur secret d'Elon Musk. Mais oui, il lui arrive d'être découragé par l'inefficience de notre appareil bureaucratique. Je vais vous faire une confidence. Je rêve en secret d'un Doge bien de chez nous, un Department of Government Efficiency, que l'on pourrait traduire par Département de la tronçonneuse, comme celui qu'a présidé Elon Musk. Un titre propagandiste, mais qui n'est quand même rien à côté du One Big Beautiful Bill de Donald Trump. Celui qui nous donne l'impression qu'on prend les États-Unis pour des enfants de 5 ans. « Oh, regarde mon beau gros Bill! » Je préférais l'époque où le gros Bill, c'était Jean Béliveau. Autant je crois que l'État doit jouer un rôle prépondérant dans nos vies pour contrebalancer les dérives du capitalisme sauvage, genre, autant je suis découragée par l'inefficience de notre appareil bureaucratique. On va se le dire, tout va mal, à grande comme à petite échelle. Parlant de petite échelle, j'ai dernièrement eu un léger contretemps avec l'Agence du revenu du Canada, ARC. En gros, ces derniers ont prétendu que je n'avais pas déclaré les mirobolants droits d'auteur perçus pour un livre dont je suis l'auteur, alors que j'avais bel et bien déclaré les mirobolants droits d'auteur perçus pour un livre dont je suis l'auteur. Après discussion avec mon comptable traitant, j'ai pris mon courage à deux mains et téléphoné à l'ARC, où l'on m'a suggéré d'envoyer un fax au centre de service de Jonquière. J'avoue que je ne pensais pas en être encore à me moquer de l'utilisation du fax dans une chronique en 2025. En fait, je pensais en être rendu à me moquer des chroniques qui se moquaient de l'utilisation du fax. Vous vous souvenez quand on riait des fax? Faudra attendre. J'ai donc envoyé mon fax avec l'aide d'une personne qui maîtrise encore cette technologie. Une vieille âme, comme on dit. Quelques mois plus tard, un fonctionnaire en forme d'agent de recouvrement me téléphone. Cette personne me dit qu'elle n'a aucune trace de ma télécopie et que, de toute façon, ce n'est pas vraiment un bon moyen de communication. Les fax auraient une certaine propension à être égarés, selon elle. Elle m'indique une procédure à suivre que ne connaissait visiblement pas son prédécesseur. En attendant, comme le gouvernement pense que je lui dois de l'argent, je ne peux encaisser mon remboursement d'impôts. 3 mois de plus s'écoulent avant que l'ARC ne rende sa décision. Tout est beau, vous aviez raison. J'attends encore aujourd'hui mon remboursement d'impôts pour pouvoir mettre du caviar sur mes craquelins sans gluten. Une situation qui ne me fait pas trop souffrir, mais qui pourrait être désastreuse pour quelqu'un qui n'a jamais perçu de mirobolant droit d'auteur. C'est anecdotique, mais j'ai l'impression que chaque personne qui vit ce genre d'anecdote a un peu plus envie d'aller se réfugier dans les bras d'un Olibrius à la Elon Musk. Bien sûr, il faut être sur la kétamine pour ne pas se rendre compte que le Doge n'est que fumisterie. Mais nous sommes tous à un fax perdu dans une craque de choisir l'aveuglement volontaire. La bureaucratie est la façon que l'on a trouvée de mettre de l'ordre dans la société. Le problème, c'est que pour mettre de l'ordre dans la bureaucratie sous-traite la bureaucratie à des firmes expertes en bureaucratie. Ça donne un maudit gros tas de bureaucratie dans lequel on a parfois envie de faire des entailles à la scie mécanique. Le biologiste américain A.O. Wilson a déjà dit « Le vrai problème de l'humanité, c'est que nous avons des émotions du paléolithique, des institutions médiévales et des technologies dignes des dieux. » En parallèle de la machine qui s'enraye, le monde tourne à vive allure et les bonimenteurs cupides en profitent. Malgré mon imbroglio fiscal, je refuse de croire que les ploutocrates vont régler le problème de l'humanité. Tout le monde sait très bien que c'est plutôt l'intelligence artificielle qui prendra tôt ou tard les décisions à la place des fonctionnaires et des gouvernements. Si vous n'y croyez pas, c'est que vous vous mettez la tête dans l'autruche, comme l'a déjà dit Gérard Deltel. Mon intérêt pour l'assainissement de la machine relève plutôt du fait que je suis un passionné d'organisation et de logistique. Le bon fonctionnement des choses m'apaise. Aussi, contre-productif que ça puisse paraître, je passe ma vie à essayer d'optimiser ma vie. Quand je vois les systèmes greffés à d'autres systèmes et les organigrammes monstrueux qui les chapeautent, j'aurais envie qu'on fasse table rase pour repartir à neuf. Donnez-moi un harem de geek et une machine à café et je changerai le monde. C'est ce que j'essaie de me faire croire, en tout cas. Ce serait l'une des seules raisons pour lesquelles j'aimerais faire de la politique. Malheureusement, mon dégoût des soupers spaghettis est plus grand que mon désir de mettre de l'ordre dans nos ministères. Les anecdotes sont puissantes. La preuve en est que certains se sont tricotés une carrière en les montant en épingle. La preuve en est aussi que j'ai perdu mon désir de démolir l'appareil public à coups de batte de baseball à cause d'une autre anecdote. C'est que je me suis récemment découvert une croûte de nez, un problème qui est à une voyelle de se régler avec un Kleenex. Le médecin de famille que l'on m'a attribué après 10 ans d'attente m'a inscrit dans le système pour un suivi en dermatologie. Eh bien, vous n'en croirez pas vos yeux, mais une semaine plus tard, je recevais un appel du Centre de répartition des demandes de services, qui m'offrait un rendez-vous pour la semaine suivante. Est-ce un miracle ou l'empreinte de la Top Gun de la santé? Probablement ni l'un ni l'autre. Même si je n'y suis pour rien, le bon fonctionnement du processus m'a grandement apaisé. Je suis sorti de cette petite histoire avec un sentiment du devoir accompli, ainsi qu'avec une crème pour m'enduire le nez. Il y a peut-être de l'espoir. Qui est Olivier Niquet? Olivier Niquet a une formation en urbanisme. Chroniqueur radio que l'on peut notamment entendre à l'émission « La journée est encore jeune » sur Ici Première, il a publié 2 livres. « Le club des mal cités » et « Les rois du silence », ce qu'on peut apprendre des introvertis pour être un peu moins débile et peut-être sauver le monde. Il est aussi scénariste et conférencier, en plus d'alimenter les sites tourniquet.québec et spornographe en un mot.info. C'était « Je pense qu'il nous faut un doge, parfois. » Un texte d'Olivier Niquet, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse.
Donald Trump rattrapé par ses exagérations. Un texte de Fabien Deglise, paru le 19 juillet 2025 dans Le Devoir. des expulsions massives, la fin de deux guerres, des économies spectaculaires dans les dépenses publiques, une diminution radicale des prix à la consommation, davantage de transparence, davantage de liberté. En revenant à la Maison-Blanche, Donald Trump a mis la barre très haut dans bien des domaines pour redonner sa grandeur à l'Amérique et assurer ainsi le bien-être de ses contemporains. Mais depuis, son gouvernement et plusieurs de ses grandes promesses semblent surtout avoir été rattrapés par la réalité des faits. État des lieux en trois temps. Le temps des coupes. De l'aveu même de la Maison-Blanche, le vaste chantier de réduction des dépenses de l'appareil fédéral promis par Donald Trump durant sa campagne électorale est encore loin d'avoir atteint les objectifs spectaculaires qu'il s'était fixés. Mais c'est d'une autre manière que son gouvernement préfère raconter l'histoire aujourd'hui. Sous la direction du président, chaque agence et chaque département exécutent cette mission avec brio, ce qui a permis de réaliser plus de 170 milliards de dollars d'économies pour le peuple américain, a résumé Harrison Fields, porte-parole de l'exécutif américain, par voie de communiqué. De nombreux présidents ont fait des promesses, mais nul autre que le président Trump n'a tenu ses promesses pour rendre le gouvernement plus efficace et éradiquer le gaspillage, la fraude et les abus à Washington. Parti sur les chapeaux de roue en janvier 2025, avec l'entrée en scène du multimilliardaire Elon Musk, placé à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, connu sous l'acronyme DOGE, la grande aventure a fini en queue de poisson avec l'explosion en plein vol, en juin 2025, de la complicité entre l'homme le plus puissant de la planète et l'homme le plus riche du monde. Après le départ de Elon Musk du gouvernement, sept de ses ingénieurs chargés de traquer le superflu et d'optimiser les dépenses dans les ministères et agences du gouvernement viennent de quitter le navire, rapportait récemment Politico. Il reste pourtant un an de vie à cette agence temporaire fondée en janvier 2025 pour 18 mois, selon le décret présidentiel qui l'a mise au monde. En campagne, Elon Musk avait promis d'aller chercher pas moins de 2 000 milliards de dollars américains en compression, soit une somme plus importante que les budgets réunis des départements de la Défense, de l'Éducation et de la Sécurité intérieure, et 11 fois plus que la somme économisée à ce jour. Le temps des expulsions. Cette semaine, un Boeing C-17 de l'armée américaine utilisé pour l'expulsion d'immigrants illégaux a atterri dans le minuscule royaume d'Eswatini, dernière monarchie absolue du continent africain, pour y livrer 5 migrants expulsés des États-Unis vers ce pays tiers. En juin 2025, ce sont 8 personnes interpellées sur le territoire américain qui ont connu le même sort. Ils sont désormais emprisonnés dans une prison du Soudan. Avec ces images d'arrestations d'immigrants, dans les champs, dans des tribunaux, sur des lieux de travail, et ces expulsions vers des pays où le respect des droits de la personne est plus que discutable, la montée dramatique des plans d'expulsion massive promus par Donald Trump avant et après son élection se poursuit. Même si la montagne semble doucement accoucher d'une souris, c'est que, de la parole aux actes, le populiste est encore loin des millions de personnes qu'il a promis de mettre à la porte du pays en les qualifiant de criminels venus empoisonner le sang du pays. Ce sont ses mots. Au dernier décompte de la police migratoire américaine, mieux connue sous son acronyme anglophone ICE, près de 71 500 illégaux font désormais face à des procédures d'expulsion dont à peine 25% ont été reconnus coupables de crimes. Donald Trump avait pourtant martelé vouloir s'attaquer au pire des pires pour contrer une invasion incontrôlable, selon ses affirmations, et assurer la sécurité de ses citoyens. Il y a un profond décalage entre la rhétorique et la réalité, a commenté l'avocat Aylan Arulanantham, co-directeur du Centre de droit et de politique de l'immigration à l'Université de Californie à Los Angeles, cité par l'Associated Press. Même si depuis son retour au pouvoir, les arrestations ont bondi dans plusieurs États, dont l'Ohio, le Nouveau-Mexique, le Texas, la Californie et le Massachusetts, le président américain est encore loin de la plus grande opération d'expulsion de l'histoire américaine, comme il l'avait annoncé après sa victoire. Après 6 mois à peine, ces expulsions n'ont même pas encore atteint le tiers de celles effectuées par le gouvernement précédent de Joe Biden en 2024. Malgré la sortie depuis janvier 2025 des tambours et trompettes et d'agents de l'immigration masqués semant la terreur dans les populations d'immigrants et d'exilés. Au rythme actuel, Donald Trump aurait besoin de rester au pouvoir durant les 69 prochaines années pour remplir sa promesse d'expulsion des quelques 10 millions d'étrangers sans statut ni visa que le populiste a mis dans sa ligne de mire pour revenir au pouvoir. Le temps du complotisme institutionnalisé. En mai dernier, durant une apparition télévisée aux côtés du célèbre Dr. Phil, le nouveau secrétaire à la santé et aux services sociaux de Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., a donné des ailes à la théorie complotiste des chemtrails en affirmant que l'Agence des projets de recherche avancée du ministère de la Défense, la DARPA, en était en grande partie responsable et qu'il allait faire tout ce qui est en son pouvoir pour y mettre un terme. C'est donc sans surprise que le même Kennedy s'est réjoui de voir l'Agence de protection de l'environnement, EPA, des États-Unis, lancer un site web sur ces traînées de vapeur blanche émises dans le ciel par les avions. Plusieurs théoriciens du complot les associent à un vaste projet visant à contrôler le climat, à empoisonner les populations ou à contrôler les naissances par stérilisation massive et chimique. En gros, l'EPA répète sur son site que toutes ces accusations sont sans fondement, mais s'assure malgré tout de garder les suspicions bien vivantes en les qualifiant de « questions légitimes ». Sur le réseau X, Kennedy a étrangement réagi en félicitant l'EPA et Donald Trump pour leur lutte contre l'empoisonnement massif et diabolique de notre peuple, de nos communautés, de nos cours d'eau, de nos fermes et de nos majestueuses montagnes violettes, une référence à la chanson « America, Dear Beautiful », a-t-il écrit. Des chemtrails à l'autisme, induit par les vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, selon une autre théorie largement déboulonnée par la science, en passant par le million de personnes décédées couvertes par le régime de la sécurité sociale, les 50 millions de dollars en préservatifs que Joe Biden se serait apprêté à offrir aux terroristes du Hamas, le génocide touchant les agriculteurs blancs d'Afrique du Sud. Le faux, l'absurde, l'exagération opportuniste, le récit entrant en contradiction avec les faits se sont, depuis janvier 2025, emparés du nouveau gouvernement. Il guide aussi ses politiques publiques, ses dépenses comme ses coupes dans les fonds publics. On disait autrefois des théories du complot qu'elles n'étaient le fait que de types sans pouvoir vivant dans une grotte, commentait cette semaine Joseph Ushinsky, politologue à l'Université de Miami et co-auteur du livre « American Conspiracy Theories » dans les pages du Washington Post. Mais aujourd'hui, ces théories sont dans les mains du gouvernement et de gens qui ont le pouvoir de faire des choses extrêmement dommageables avec. Les licenciements massifs au sein du département de la justice, le projet d'éradication du département de l'éducation, la réduction du financement sur la recherche climatique, la suppression des mentions du réchauffement du climat des sites web fédéraux ou la réduction des effectifs des agences de prévision météorologique et des agences scientifiques, tout comme des services de la sécurité civile, se nourrissent de cette constellation de complots, voulant qu'un « État profond » cherche à nuire à Donald Trump ou à façonner le monde pour le mettre à la botte des progressistes. Mais certaines de ces rumeurs politisées peuvent aussi se retourner contre le président, comme il a pu le constater avec les dossiers Epstein. Il avait promis la transparence sur les complicités du pédocriminel Jeffrey Epstein avec l'élite et les riches de ce monde. Sa secrétaire à la justice, Pam Bondi, a évoqué une liste compromettante de clients, mais prétend désormais que cette liste n'existe pas. Il n'en fallait pas plus pour alimenter les suspicions dans le propre camp du populiste et plus loin encore. Ce sont 7 Américains sur 10 qui estiment qu'ils cherchent désormais à cacher des choses sur ce sujet, selon un sondage Ipsos Reuters dévoilé jeudi. L'arroseur qui a fait du complotisme le carburant de son ascension se fait donc arroser, sans savoir encore s'il va réussir, comme il le fait toujours, à trouver une porte de sortie. C'était Donald Trump rattrapé par ses exagérations, un texte de Fabien Deglise paru le 19 juillet 2025 dans Le Devoir.
L'été quand on est laid. Une chronique de Vanessa Destinée parue le 11 juillet 2025 dans Urbania. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours détesté l'été. En fait, non, ce n'est pas tout à fait ça. J'ai déjà statué ici que j'aime l'été pour ses odeurs. Je l'aime pour ses lumières incertaines passées 19 heures et les chuchotements de la ville qui survivent à la nuit. Je l'aime aussi pour ses rendez-vous galants ou collectifs. Ce que j'ai toujours détesté de l'été, c'est moi. J'étais une enfant boulotte, grande et large, pauvre et sédentaire. Celle qui mangeait beaucoup de riz parce que ça ne coûtait pas cher et qui allait ensuite gérer son ventre ballonné dans la ruelle avec les enfants blancs de familles sur l'aide sociale ou les autres enfants d'immigrants. Mes petits amis, qui avaient les dents croches, de la grosse pilosité ethnique foncée et des petits totons mous. Mes petits amis, vêtus de souliers de course scrap de chez Yellow et de t-shirts blancs jaunis par l'usure et le manque d'hygiène, on fera pas semblant. On était laid. Mais on était laid en gang. Ça faisait moins mal. C'est à la fin de mon primaire et pendant mes premières années du secondaire que ça s'est vraiment gâté. Une période marquée par mes premiers contacts avec ce phénomène social nommé embourgeoisement. D'abord un programme international audacieux conçu pour attirer les pupilles aux dents parfaites et à la silhouette élancée des quartiers riches dans l'écosystème social de ma petite école de quartier. Puis, mes premiers pas à l'école privée, où il n'était pas rare de voir des adolescentes de 14 ans avec des écharpes Burberry. Le secondaire ne m'a fait aucun cadeau. La masse de graisse flasque accumulée durant mon enfance est venue se loger dans mon torse, me donnant un tour de poitrine beaucoup trop généreux pour mon âge et pour être contenu dans un vulgaire polo de maison Piacente. Les vrais savent. J'ai passé mon adolescence à cacher mes gros nibards sous des couches de vêtements oversize et ces horribles cardigans longs si caractéristiques des années 2000. Vous savez lesquels. J'avais la peau du visage grasse. Mon père avait pris l'habitude de m'appeler Fun Clear, ce qui signifie front luisant en créole, haïtien. Et je portais des lunettes à double foyer, comme une grand-mère de 154 ans. Un truc prescrit par mon optométriste pour ralentir la progression de ma myopie et s'assurer qu'on rit de moi à la moindre occasion, sans doute. L'été a donc toujours été un moment particulièrement vulnérabilisant pour moi. Je préférais crouler sous la chaleur, plutôt que de dévoiler ne serait-ce qu'un centimètre de chair. Mes amies graciles, elles, ne se faisaient pas prier pour vivre leur best life dans les camisoles à bretelles spaghetti garage, celles-là même qui sont honnies des adultes en position d'autorité depuis 3 générations au moins. C'est finalement une réduction mammaire à l'hiver 2013 qui m'aura donné le courage nécessaire pour me libérer de mes plures d'oignons vestimentaires. Plus tard, je renoncerai également à mes grosses lunettes en plastique, révélant ainsi au monde la princesse que j'ai toujours été, à la manière des ingénues dans les films pour ados, dont le sex-appeal atteint le plein potentiel seulement quand elles abandonnent broche, barnique et bonne note pour devenir la copine du chef de l'équipe de foot, puis, immanquablement, la reine du lycée. Mon makeover a culminé avec l'ajout de tatous à quelques endroits stratégiques pour camoufler mes bras forever gras et gibletants et mes taches d'hyperpigmentation dont j'hérite au moindre bobo. Aujourd'hui, ma carrure n'est pas moins imposante. Mais j'ai désormais une face qui se rapproche des standards européens de beauté. Shout-out au colorisme qui m'avantage dans ce monde de merde et un dos capable de se maintenir droit sans courber sous le poids de deux grosses cloches. J'ose maintenant la bretelle large dans les robes d'été façon Ritman's, ce qui aurait été impensable pour moi avant la pandémie. Des cicatrices qui racontent trop fort. C'est en tombant sur une publication Instagram d'Henry June Pilote, que j'ai repensé à mon parcours. Henry June, un homme trans qui est également conférencier, consultant et créateur de contenu sur les enjeux LGBTQ+, raconte dans une vidéo fort touchante que, depuis sa transition médicale impliquant une mastectomie longtemps convoitée, il a maintenant de la misère à se baigner torse nu en public l'été. Il évoque, entre autres, une honte viscérale, non pas parce qu'il déteste son corps, mais plutôt parce qu'il se sent exposé comme si ses cicatrices racontaient trop fort une histoire qu'il n'a pas choisi de dévoiler. Ayant toujours envisagé la transition médicale comme une sorte de triomphe pour les personnes trans, j'avoue que c'est quelque chose auquel je n'avais jamais vraiment pensé. Angle mort, quand tu nous tiens. Curieuse d'en savoir toujours plus, j'ai demandé à Henry June s'il accepterait de se dévoiler davantage, mais seulement pour le public d'Urbania, obvi. C'est difficile. Un processus de transition, parce que je suis à la fois plus heureux et à la fois plus triste, m'a répondu Henry June, qui a eu son opération il y a 6 ans. Quand je pense à mon corps, il y a différentes choses qui me dérangent. Les cicatrices sur mon chest, mais aussi mon poids. J'ai quand même vécu ma puberté dans un corps que je n'ai pas choisi durant la première moitié des années 2000 et du culte de la minceur chez les femmes. Le créateur de contenu me confie qu'il a fait cette vidéo parce que cet été sera son premier avec un vrai maillot de bain pour homme, c'est-à-dire de bons vieux shorts en nylon qui arrivent aux genoux. Avant, il se cantonnait à un maillot à bretelles, un modèle similaire à ceux que l'on voyait sur les plages européennes au tournant du 20e siècle, mais en plus cutie. Tout ça pour cacher le haut de son corps. Henry June m'informe qu'au Québec, la mastectomie pour les personnes trans se limite à l'aspect médical sans vraiment prendre en considération l'aspect esthétique de la procédure, comme on le ferait dans une clinique privée aux États-Unis pour le même montant, par exemple. Chez nous, c'est chop-chop, puis that's it. Tant pis si c'est laid. Je n'ai pas eu de liposuction et j'ai des petites oreilles de chien sur le côté du surplus de peau. Pour mes nipples, c'est comme si on m'avait mis 2 pépéronis sur le chest. Il y a une libération dans la mastectomie, puis de pouvoir enfin porter les vêtements que j'ai le goût de porter, mais j'ai aussi maintenant ce marqueur de ma transidentité qui est très, très apparent, confie-t-il, en précisant que dans le contexte social actuel, cela peut nourrir de la transphobie à son endroit. C'est pas grave. On fait avec, ajoute Henry June avec un sourire résigné. Vous écoutez « L'été quand on est laid », une chronique de Vanessa Destinée parue le 11 juillet 2025 dans Urbania. Complexe Aldress. Une petite face contrite que je connais trop bien et qui me ramène à ma quête initiale. J'ai voulu savoir qui d'autre parmi mes abonnés affichait un sourire résigné en se regardant dans le miroir l'été. J'ai donc lancé un appel à tous. Une dénommée Marie-Claude m'a confié que pour elle, ce qui est le plus angoissant maintenant qu'elle a fait la paix avec son poids après plusieurs années de travail, c'est son niveau de transpiration. L'été, je suis mal dans ma peau à cause d'une condition de l'hyperhidrose qui fait que je transpire abondamment. C'est un enjeu à longueur d'année, mais l'été, c'est aussi ne pas avoir envie d'aller dans des événements non climatisés, éprouver de l'anxiété sociale à l'idée de refuser des câlins ou d'être gêné de s'asseoir à côté de quelqu'un, ajoute-t-elle. L'enjeu de la sueur semble donner des complexes à beaucoup de personnes. J'ai littéralement eu un torrent de messages à ce sujet. Excusez-la. Inévitable. La question du poids a aussi été soulevée à de nombreuses reprises, mais fait intéressant, l'été fait ressortir les complexes de gens se situant aux deux bouts du spectre. L'été, quand on pèse près de 400 livres à 30 ans, un enfer. Et même après avoir eu une chirurgie bariatrique, l'été est tout aussi difficile, car la peau molle post-perte de poids rapide sur mes bras me complexe, se désole Jacinthe. Moi, j'ai un trouble alimentaire, donc je déteste mon corps. Surtout mes jambes et mes cuisses. Et je ne mets que des t-shirts parce que j'ai l'impression d'avoir du gras au niveau des aisselles. Chez les autres, je m'en fous. Mais avec mon anorexie, j'ai l'impression que tout est moche. Je n'ai pas porté de maillot depuis au moins 10 ou 12 ans, m'explique Marie. La peur du maillot de bain est un autre sujet récurrent. Une de mes abonnées me confie y avoir renoncé à l'âge de 14 ans, excédée par son poil foncé et dru qui la laisse avec des poils incarnés quand elle essaie de les dompter. Toujours du côté de la pilosité, les hommes ne sont pas en reste. Pour Hugo, pas Meunier, quoique, les cheveux peuvent être une source d'inconfort. Je suis capable d'intellectualiser le fait que je ne suis pas laid dans une perspective extrêmement conventionnelle de la beauté, mais le sentiment d'être laid a un impact quand vient l'été. Je ne perds pas vraiment mes cheveux, mais je suis toujours gêné de sortir sans coton ouaté ou chapeau. Je ne veux pas montrer mes cheveux. La situation capillaire d'Hugo n'est pas la seule source de ses tourments. Il préfère se réfugier sous des vêtements amples plutôt que d'exhiber son corps, et ce, même s'il est mince selon les standards de beauté occidentaux. J'ai de la misère à porter une seule couche de linge comme un t-shirt ou une camisole. Je préfère porter un coton ouaté pour qu'on puisse moins deviner la forme de mon corps quand je fais du vélo, même quand la météo dépasse les 30 degrés. En fait, si j'avais l'option de porter quelque chose pour cacher mon visage, je le ferais aussi. L'envie de disparaître. C'est également ce qui a obsédé une de mes abonnées à une certaine époque. Sauf que, comme c'est le cas pour Henry June Pilote, ses cicatrices racontent désormais trop fort. Moi, mon complexe, c'est mes cicatrices d'automutilation. C'est arrivé dans une autre vie, mais mon corps me le rappelle à l'univers et à moi-même chaque fois que je suis en t-shirt, regrette-t-elle. Dernièrement, j'ai commencé à porter des shorts, mais seulement quand je suis avec mon groupe d'amis qui sert de barrière entre le monde et moi. Si je crée autour de moi un environnement où c'est OK d'être laid, je peux porter ce qui est réellement adéquat ou confortable pour la température, mais je ne le ferai jamais seul en public, raconte une autre abonnée. Une barrière entre soi et le monde. J'ai eu un pincement au cœur en lisant tous ces témoignages. Parce que l'été, c'est censé être la saison de la lumière. Mais pour plusieurs, c'est aussi celle de la surexposition, celle qui gâte les photos. Je sais. Au cours des dernières années, notre vocabulaire s'est enrichi pour nous aider à faire le ménage dans notre tête et se libérer d'une image de soi négative. Les mots « diversité » et « neutralité corporelle » ont fait leur entrée dans nos conversations, dans les articles de journaux et dans les repas de famille. Mais renoncer à des impératifs sociaux tenaces en matière d'apparence physique, c'est le travail d'une vie. Et l'été ne dure que 13 semaines, hélas. Chaque année, le cycle est à recommencer. Toutes les cigales, même celles qui n'ont pas chanté, se retrouvent prises au dépourvu. Ce n'est pas facile de se réconcilier avec son corps en 2-3 affirmations positives. Et des fois, l'urgence, c'est de survivre à une autre canicule sans trop saillir. L'été, quand on est laid, ce n'est pas la chaleur qui écrase le plus, c'est le poids du regard. Mais, parfois, dans un coin d'ombre, entre deux larmes de sueur et un t-shirt plaqué au corps, il y a un moment de paix. Une brise, une pause triée de souvenirs qu'on tolère un peu plus. Un regard complice, plus clément que le nôtre. C'est peut-être juste ça, finalement, être libre. C'était « L'été quand on est laid », une chronique de Vanessa Destiné, parue le 11 juillet 2025 dans Urbania.
La mission presque impossible du nouveau commissaire, un texte de Nathalie Collard, paru le 5 août 2025 dans la presse. L'itinérance n'a jamais été aussi visible dans les rues de la métropole. Campement de fortune, ressources qui débordent, personnes en état de crise. La cohabitation avec la population logée est parfois difficile. Tout juste nommé au poste de commissaire aux personnes en situation d'itinérance à la Ville de Montréal, Julien David Pelletier confie à notre chroniqueuse qu'il a bien l'intention de rétablir le dialogue social. Il faut beaucoup aimer les défis pour accepter le poste de commissaire aux personnes en situation d'itinérance à la Ville de Montréal. Julien David Pelletier en rêvait. Quand j'en ai parlé à mon entourage, on me disait « Ton nom est écrit sur cette job-là ». J'avoue que j'ai été agréablement surprise quand j'ai appris sa nomination. J'ai rencontré Julien il y a 10 ans, dans le cadre d'un reportage sur les jeunes gens inspirants de moins de 30 ans. Son engagement m'avait impressionnée à l'époque. À 27 ans, diplômé en droit, il avait déjà cofondé la clinique juridique Juripop avec des collègues. À l'époque, son cœur balançait entre le droit et le journalisme. Il a finalement goûté aux deux, puisqu'il a aussi travaillé comme journaliste dans les bureaux de Radio-Canada à Ottawa durant 3 ans. Son beat, l'itinérance. De retour au droit, il a siégé au conseil d'administration d'organismes qui œuvraient aussi dans le milieu de l'itinérance. Bref, c'est vrai que cet emploi de commissaire était taillé sur mesure pour lui. Ce qui ne veut pas dire que ce sera facile. On a beau avoir des idéaux, la bureaucratie d'une grosse ville comme Montréal peut être très lente à faire bouger. Sa mère, l'ex-ministre Hélène David, l'a d'ailleurs averti. « Ne t'en fais pas si tout n'arrive pas tout de suite. » Elle parle d'expérience. J'ai demandé à Julien David Pelletier quelles étaient, selon lui, les qualités requises pour occuper son poste. Il répond : l'empathie. Savoir être capable de parler d'égal à égal avec des personnes qui sont nos concitoyens. Même si elles sont dans la rue, elles restent des personnes comme les autres. L'autre qualité, c'est la créativité. Le nouveau commissaire rêve de mettre sur pied des projets qui vont améliorer la vie des personnes itinérantes et se dit agréablement surpris par ce qu'il entend dans les couloirs de l'hôtel de ville, des mots comme agilité et innovation sociale. Ça m'inspire, ajoute-t-il optimiste. Julien David Pelletier succède à Serge Larrault, le premier nommé à ce poste sous Denis Coderre. Il œuvrera, au sein du Bureau des commissaires, une nouvelle structure qui regroupe aussi le commissaire au racisme et à la discrimination, ainsi que le commissaire aux affaires autochtones. Ça nous permet d'avoir une vision qui est transversale et moderne des enjeux sociaux sur le territoire de l'île de Montréal, souligne Julien David Pelletier. Et comme le bureau relève de la direction générale de la ville, ça me donne une influence durable sur les politiques et les opérations. On s'attend de moi que j'influence la ville à l'interne et que j'améliore les pratiques. Parmi ces objectifs, travailler sur la déjudiciarisation des personnes en situation d'itinérance et sur leur retour en société. En poste, depuis la mi-juin, il a déjà entrepris une tournée sur le terrain. Organismes communautaires, services municipaux, sociétés de transport de Montréal, etc. Il y a des centaines d'organismes à Montréal qui œuvrent en itinérance, dit-il. Je n'ai pas envie d'être celui qui va butiner de réunion en réunion. Je veux être au courant de tout, oui, mais pour pouvoir placer mes interventions de manière stratégique et précise, afin qu'elles aient le plus grand impact possible. L'une de ses premières lectures, en arrivant en poste, le rapport de l'Office de consultation publique de Montréal, OCPM, sur l'itinérance. Il y a une citation qui a capté mon attention dans ce rapport, mentionne-t-il, à propos des carences dans les questions de dialogue social. Je vais m'y intéresser de plus près. C'est vrai que chaque possible ouverture d'une ressource soulève les passions. Je pense, entre autres, à la Maison Benoît Labre. Mais ce n'est pas le seul cas où la ville a dû gérer une crise. Le nouveau commissaire affirme qu'au sein de la ville, il y a une vigie constante pour chercher des sites ou implanter de nouvelles ressources partout sur le territoire, avec un certain principe d'équité territoriale. On sait que l'itinérance, même si elle s'étend partout à Montréal, est surtout concentrée dans 3 arrondissements centraux. On ne peut pas critiquer des citoyens confrontés à la vulnérabilité au quotidien de se sentir impuissants et craintifs. Il ne s'agit pas seulement du syndrome « pas dans ma cour ». Le rapport de l'OCPM dit bien que la majorité des citoyens ont davantage un réflexe d'empathie. Ça n'empêche pas qu'ils se demandent si Montréal ne va pas devenir comme Vancouver. L'implantation de nouvelles ressources doit se faire dans le cadre d'un dialogue social plus grand, poursuit le nouveau commissaire, afin que les ressources soient vues comme quelque chose de positif, quelque chose qu'on veut par solidarité humaine. Ça passe par le dialogue et le respect des droits de tous. Julien David Pelletier sera aux premières loges, quelque part à l'automne, quand les premiers locataires s'installeront enfin dans les unités d'habitation modulaire transitoire, érigées sur le site du futur quartier Namur-Hippodrome, ainsi que dans la rue Louvain-Ouest, dans Antique. J'ai vu les effets positifs de ce type de projet à Gatineau et j'ai été vraiment impressionnée, assure-t-il. C'est un bon exemple de ce que peut faire une ville, une solution pour sortir des personnes de la rue à condition de leur offrir un soutien psychologique. Ça prend des solutions structurées. Julien David Pelletier souhaite aussi en finir avec le mode urgence, qui fait en sorte qu'on se réveille à la dernière minute à l'arrivée de la première neige pour ouvrir des haltes chaleur en catastrophe. Quand je suis arrivée, il y avait déjà un plan en cours pour faire en sorte que les mesures hivernales ne soient pas à la dernière minute cette année, assure-t-il. Ça fait partie de la nouvelle vision qu'on veut avoir d'être en mode planification plutôt qu'en mode gestion de crise. Plein d'espoir et gonflé à bloc, Julien David Pelletier aimerait qu'un jour, les personnes itinérantes le reconnaissent dans la rue et viennent lui poser des questions ou lui faire part de leurs problèmes. Est-ce réaliste? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les personnes en situation d'itinérance ont un formidable allié à l'hôtel de ville. Espérons que la machine municipale ne le brûle pas. Qui est Julien David Pelletier? A cofondé en 2009 la clinique Juripop, un organisme qui a pour mission d'améliorer l'accès à la justice pour tous, dont les personnes les plus vulnérables. Membre du barreau depuis 2015, il a été conseiller pour l'accès à la justice au barreau du Québec de 2017 à 2019. Journaliste à Radio-Canada, dans la région d'Ottawa-Gatineau, de 2021 à 2024. Nommé commissaire aux personnes en situation d'itinérance à la Ville de Montréal en juin 2025. C'était la mission presque impossible du nouveau commissaire, un texte de Nathalie Collard, paru le 5 août 2025 dans la presse.